RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Débat, discussion comme tous les jours avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Vous venez prendre la parole avec nous, bien sûr, avec Bruno Poncet, le cheminot, Florin Guébali, l'entrepreneur dans la transition écologique. Nous sommes avec l'éditeur de bande dessinée, Mourad Boudjelal. À 11h20, là, tout à l'heure, notre dernier sujet de discussion concernera la...
11h40.
11h40, pardon. La déconnexion des jeunes. C'est le président de la République voudrait qu'il soit moins sur les écrans et qu'il lise davantage. Il voudrait instaurer, le président de la République, une journée de la déconnexion. Bonne ou mauvaise idée, faisable ou pas faisable. C'est au 32-16 que vous viendrez en parler tout à l'heure à midi moins 20. En attendant, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Ah, il s'est fait connaître du grand public et même dans le monde entier avec son livre précédent, Sodoma. C'était une enquête concernant le Vatican et les mœurs vaticanaises. Frédéric Martel, bonjour.
Bonjour.
Reviens avec ce livre Occident, enquête sur nos ennemis. C'est aux éditions Plomb. Vous avez parcouru le monde à la recherche des penseurs qui détestent l'Occident.
Bah surtout, je les ai infiltrés ou j'ai essayé de les faire parler. C'est pas toujours simple. À la fois des ennemis traditionnels. Je pense à la Russie hier soviétique, aujourd'hui celle de Poutine. Je pense à la Chine. La Chine de Xi Jinping qui en réalité veut nous manger tout cru même si elle ne l'affiche pas. Je pense bien sûr aux islamistes, que ce soit le Hezbollah, j'ai infiltré un certain nombre de ces réseaux dans des bunkers secrets, le Hamas avant le 7 octobre, les frères musulmans, mais aussi, et c'est la nouveauté de notre époque, des ennemis qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qui nous encerclent, à savoir notamment le Trumpisme. Donc j'ai été au cœur du Trumpisme, notamment dans mes relations régulières avec Steve Bannon, type d'ailleurs hyper sympathique et très intelligent, mais en même temps clairement un ennemi, disons un ennemi de nos valeurs, un ennemi de l'Europe, de la France. Et c'est ces valeurs-là que j'essaye de défendre. Voilà, j'essaye de défendre en ayant vu...
Ils sont engagés dans ce qu'ils appellent la bataille culturelle. C'est-à-dire que la bataille culturelle, avant la bataille politique, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas nos valeurs, ils estiment qu'on est en pleine décadence, quoi. En fait, si je résume leurs points communs, quoi.
Absolument. Et surtout, ce qui est important, c'est que la bataille culturelle, la bataille idéologique, elle annonce la suite. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un conflit, nous ne sommes pas dans une guerre militaire. On l'est indirectement, et c'est déjà beaucoup, ça coûte cher d'ailleurs, en Ukraine contre la Russie, mais c'est indirect. En revanche, il y a une guerre idéologique, et je crois qu'on est dedans. Et bon, voilà, j'ai cru important, c'est pas un livre de circonstances, hein. Il y a 8 ans que je travaille sur ce sujet, c'est de près de 2000 interviews, donc je fais pas ça juste aujourd'hui parce qu'il y a une actualité. Ça a paru cette semaine, parce que, bon, le livre était prêt. Mais c'est cette idée, au fond, d'expliquer cet encerclement. Je crois que c'est une des nouveautés de notre époque. Et aussi de voir que nos ennemis, qui sont eux-mêmes très divisés, se rejoignent dans la haine de nos valeurs. Donc la démocratie, les droits de l'homme, chose très banale en soi, mais qui pour eux sont des choses qu'ils détestent.
Et parmi les révélations, vous avez rencontré plusieurs anciens responsables des régimes d'Hugo Chavez et Nicolas Maduro. On a beaucoup parlé de Maduro récemment, puisqu'elle a été enlevée par les Américains. Il est dans une prison américaine.
Kidnappé.
Donc c'est Venezuela, et vous rapportez que l'État vénézuélien aurait financé les amis politiques de Jean-Luc Mélenchon et même Jean-Luc Mélenchon lui-même, puisqu'il aurait eu des avantages en nature accordés par le régime de Chavez, un avion personnel, la prise en charge de ses déplacements. C'est du financement politique via un État à l'étranger.
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde fait ça. Vous êtes tous les pays, tous nos ennemis, financent sous différentes manières. Prenons par exemple la Chine. On sait, ça a été montré par un rapport du ministère de la Défense, qu'il y a un grand nombre, je dirais, d'influenceurs, d'intellectuels, de think tanks qui reçoivent sous différentes formes des subsides chinois pour défendre les idées chinoises. De la même manière, il y a beaucoup, on le sait également, d'infiltration par les Russes, d'ingérence russe. On le sait sur les réseaux sociaux. sociaux, etc. C'est vrai aussi, on prend par exemple des chaînes comme Al Mayadeen, qui est une chaîne en apparence assez cool. Ils disent qu'ils sont pro-gays, pro-féministes. En réalité, Al Mayadeen, c'est une chaîne du Hezbollah qui est financée intégralement par l'Iran au Liban et qui est diffusée sur les satellites européens et américains, Eutelsat et Intelsat. Donc, c'est une logique globale.
Enfin, de là à financer mais c'est, directement ou indirectement un candidat.
Écoutez, il faudrait regarder un certain nombre d'élus, voire d'anciens ministres, voire d'anciens premiers ministres et leurs liens avec la Chine, avec la Russie, avec le Qatar.
Oui, mais là, vous parlez de pays qui non, sont...
Je commençais juste par la Chine et le Qatar. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement nos amis. Oui, mais le point principal, c'est que c'est un modèle d'ensemble.
D'accord.
Alors, j'en viens à votre question et que je n'élude pas. Il se trouve que depuis longtemps, le castrisme, c'est-à-dire Fidel Castro, Cuba a une logique d'ingérence étrangère très forte qu'ils ont menée depuis les années 60 et les années 70. Sauf que d'abord Cuba est aujourd'hui ça a complètement fait faillite et surtout Fidel n'avait pas d'argent. Or quand Hugo Chavez arrive à la fin des années 99 au début des années 2000 et va prendre le pouvoir, il est assis sur un magot qui s'appelle PDVSA, c'est un peu technique, mais en gros, c'est la Compagnie Pétrolière Nationale Vénézuélienne. C'est les plus grandes richesses de brut au monde devant l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est des milliers de milliards. Et il a ce PDVSA qui va par la suite faire faillite. Mais grâce à ça, il va financer énormément de structures, faire du business aussi, avec la Chine, encore le Qatar. Il va financer des partis politiques. Donc ça, c'est très connu. En Argentine, Kirchner. Au Brésil, la première campagne de Lula. En Équateur, Correa. En Bolivie, Evo Morales. Et puis Podemos en Espagne. Tout ça est très attesté et a suscité un grand nombre d'articles de presse, des procès, parfois même des condamnations, des gens expulsés, etc. Et puis, effectivement, et je réponds là à votre question, 5 anciens ministres de Chavez m'ont dit, tous les 5, que Chavez avait également financé, ainsi que Maduro, un certain nombre d'intellectuels, de médias et de partis politiques ou d'amis, effectivement, de Jean-Luc Mélenchon. Alors tout ça, moi, je suis le premier à avoir raconté ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent là-dessus, notamment parce que le procès Maduro va avoir lieu et beaucoup de gens parlent. En Espagne, Amérique latine, énormément de journalistes travaillent sur ça.
Vous avez posé la question aux Insoumis du côté de Mélenchon?
Écoutez, on leur a transmis un certain nombre de questions.
Ils n'ont pas répondu
Ça dépend lesquels, mais en général, ils n'ont pas répondu. Je vais sortir un certain nombre de documents. Par exemple, il y a un média dont on sait que... Alors, parfois, c'était des choses légales. Par exemple, ils achetaient de la publicité. Acheter de la publicité, ça peut être beaucoup d'argent, mais ça n'a rien d'illégal. Vous payez des conférences de conférenciers. Au lieu de payer 1 000 euros, par exemple, vous les payez peut-être 50 000. Il n'y a rien d'illégal. Même chose, vous leur demandez des articles de presse. Pareil, vous les rémunérez bien. Vous les faites venir dans un avion privé, etc. Donc, tout ça, aujourd'hui, même en France, un certain nombre de journalistes travaillent sur ça. Donc j'ai allumé un peu la mèche, si on peut dire.
Oui, il y a des transferts de fonds qui pourraient constituer un financement illicite pour la France insoumise.
Oui, je rappelle quand même que c'est souvent de l'argent liquide, donc c'est extrêmement difficile à prouver. Par ailleurs, le parquet a été saisi pour financement illégal de la campagne électorale de M. Mélenchon à partir des révélations de ce livre. Et donc, on va voir comment ça va se passer.
Non, mais parce qu'en ce moment, on juge Nicolas Sarkozy il est accusé d'avoir été financé par la Libye de Kadhafi, et on parle aussi d'argent liquide. Moi, ça m'a fait forcément ça saute aux yeux.
On dit, tiens, Kadhafi,
finalement,
oui,
si la Libye finançait Kadhafi et le Venezuela peut-être finançait Jean-Luc Mélenchon. Décidément, nos responsables politiques français sont financés par l'étranger.
Vous parlez aussi de l'ingérence de certains pays étrangers dans nos politiques, et vous parlez surtout quand même de l'extrême droite. Parce que là, toi, t'es venu sur LFI tout de suite, mais l'extrême droite...
Non, mais je parle des deux. Bah, oui,
Russie,
absolument.
La Russie, c'est avéré.
Voilà, la Russie a financé sous différentes formes de prêts Marine Le Pen. Éventuellement, le Venezuela a aidé M. Mélenchon. On voit bien qu'au fond, les extrêmes ont été financés par des partis qui leur ressemblent à l'international. C'est juste ça que je dis. Après, moi, je ne suis pas pas spécialisé dans l'investigation financière. Je laisse ça à des gens bien plus malins que moi. Moi, je travaille sur les idées et on pourrait dire les flux idéologiques. Mais il est clair que quand j'ai entendu parler de ça, ça me paraissait normal de le dire.
On va pas y plus, mais Mariani, quand il était aux Républicains ou à l'UMP.
Mariani et la Russie, voilà. Oui, Mariani et la Russie. C'est un sujet.
La Syrie aussi.
La Syrie. Et même Rima Hassan et la Syrie. Comment se fait-il que Rima Hassan, qui est une Palestinienne, et on peut avoir beaucoup de sympathie pour les Palestiniens, en même temps, les Palestiniens, ils ne rentrent pas quand ils sortent de Syrie. Ils ne peuvent pas. Pourquoi est-ce qu'elle le rentre?
Ouais, elle peut.
Pour revenir à votre livre, là, Occident, il y a quelques anecdotes qui sont assez croustillantes. Notamment, moi, j'ai relevé celle quand vous allez en Égypte rencontrer Kamel Habib. Kamel Habib, c'est l'un des leaders du djihad islamique égyptien. Et alors, il traite l'Occident de raciste et d'intolérant vis-à-vis des femmes. Donc, il renverse complètement le truc et dit, bon, voilà, c'est pour ça que votre pays n'est pas un modèle pour nous. Alors, nous, on dit qu'on est plutôt tolérant vis-à-vis des femmes et bienveillant vis-à-vis des autres, quoi, en fait.
Oui, mais c'est là, en l'occurrence, il s'agit du djihad islamique égyptien. Le type, d'ailleurs, quand je le vois, me dit, j'ai passé 10 ans en prison. Alors, je lui dis, oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est là qu'il me dit, je ne le savais pas. J'étais l'un des cofondateurs du djihad islamique égyptien. Bien, ça pose le personnage, quand même. La même chose quand j'ai infiltré les réseaux du Hezbollah ou du Hamas ou du djihad islamique à Gaza, qui n'est pas le même. C'était avant le 7 octobre, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent n'importe quoi. Ces gens-là, par exemple, vous expliquent que oui, on n'aime pas l'Occident parce qu'il y a des lois pour défendre les pédophiles en Occident. Enfin, vous voyez, genre de bêtises insensées, qui est une espèce de propagande. Et en effet, ils renversent constamment.
Il n'existe pas. Mais par exemple, dernier exemple en date, dans l'actualité, l'Iranienne qu'on a libérée, sans doute en échange de nos deux otages français, une espèce d'influenceuse du régime des Mollahs, qui avait été condamnée pour apologie du terrorisme en France, elle est rentrée à Téhéran, ils ont organisé entre guillemets des manifestations pro-régime et elle parle devant la télé d'État en disant mais la France c'est un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, voilà, il n'y a pas de liberté d'opinion, donc effectivement la France devient ce qu'on pourrait reprocher à l'Iran.
Mais c'est hallucinant, et ça c'est le discours aussi de Jedi Vance.
C'est le discours de LFI.
Voilà, et c'est quand même là on voit bien qu'il y a des ce que j'ai essayé c'est de donner des grilles de lecture.
On est pris en tenaille quoi en fait.
On est pris en tenaille, on est encerclé et j'ai essayé de donner des grilles de lecture sur un monde profondément nouveau par rapport à celui que vous et moi, on est sûrement du même âge, avons connu à l'époque où il y avait d'un côté les maoïs, les maoïstes, les communistes, etc., ou les atlantistes. Le monde a changé. Et je pense qu'il est d'autant plus dangereux qu'il ne correspond plus à l'ADN de l'époque.
Vous dites par rapport...
C'est une question.
Excuse-moi, Flora.
Non, mais parce que c'est là-dessus. Quand j'ai lu votre livre, donc qui s'appelle Occident au pluriel, donc avec un S, et qui est quand même la preuve que dans le concept de l'occidental, on peut mettre, c'est un concept valise pour tout. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Est-ce que l'Occident, c'est pas devenu le même bouc émissaire que les aristocrates pendant la Révolution française, les juifs pendant l'Allemagne nazie, les communistes dans l'Amérique à tort ou à raison, qu'on les coupe, qu'on les tue, je suis pas sûre, mais peu importe, que les communistes pendant l'Amérique sous la guerre froide, et que finalement la stratégie du bouc émissaire, c'est juste un fuel politique qui permet à des dirigeants de attiser les haines et donc en créant un ennemi fort d'avoir du pouvoir d'action politique, et que nous les gentils occidentaux on s'était toujours pas rendu compte que c'était nous le nouveau bouc émissaire de l'époque, et on s'en est pas rendu compte et on a laissé le truc arriver.
C'est
comme ça,
absolument ça la thèse de mon livre, merci, parce que c'est exactement ça. D'abord je me demande pourquoi nous détestent-ils, et je constate qu'ils plaquent sur ce mot d'Occident, avec des définitions extrêmement variées et souvent délirantes, toutes leurs peurs, tous leurs caprices, tout leur aussi leur fantasme. Et donc alors pour les uns évidemment ce n'est que Israël, pour les autres ce n'est que les États-Unis, mais souvent c'est le capitalisme, comme si par exemple la Chine n'était pas ultra capitaliste ou Dubaï n'était pas ultra capitaliste. Donc on voit bien qu'on est dans le mensonge presque général, et il était nécessaire de les démasquer. Donc c'est ça l'objectif. Moi je les vois, je vais au contact, je leur parle, je les infiltre parfois plus secrètement, et après, je viens décrypter leurs discours, je viens déconstruire ces discours et les démasquer.
On va continuer la discussion avec vous, Frédéric Martel, question de Mourad Boudjelal. Le livre s'appelle Occident, enquête sur nos ennemis. C'est ainsi qu'on découvre en Chine un homme qui s'appelle Alexandre Douguine.
C'est un russe, mais je le vois en Chine, en effet.
Vous voyez en Chine et qui décrit l'Occident comme étant l'antéchrist. Donc ça mérite que vous nous expliquiez ça. Restez avec nous et n'oubliez pas le plein d'essence. Vous envoyez plein par SMS au 732-16.
Ça, c'est très gentil.
120 euros d'essence à gagner sur RMC. Plein par SMS au 732-16. Un gagnant en ligne dans 10 minutes avec nous. Vous êtes sur RMC, il est 11h15.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Éric Martel est avec nous avec ce livre enquête chez Plomb Occident, enquête sur nos ennemis et nos ennemis qui vont de la Chine à la Russie, à Cuba, au Brésil. Vous les avez rencontrés en Italie, en Allemagne, en Hongrie, au Venezuela, en Algérie. En fait, ce sont ces je mets penseurs, hein, mais qui détestent, entre autres, qui détestent l'Occident, les valeurs que l'on peut représenter. Monsieur Mourad Boudjelal, question.
Oui, alors, l'Occident, pour moi, c'est les États-Unis, l'OTAN. Et vous dites qu'ils sont détestés. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir utilisé deux fois la bombe atomique pour tuer, juste après par la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir grandi économiquement grâce au colonialisme, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir tué des millions de personnes, notamment en Irak, sur la base de mensonges, est-ce que vous pensez qu'avoir monté un réseau pédophile dans le monde à travers Epstein, qui était un réseau occidental, est-ce que vous pensez pas qu'avoir instauré à travers BlackRock une espèce de gouvernance mondiale occidentale, est-ce que vous pensez que ce sont des raisons suffisantes pour nous détester?
Ah bah ce que vous dites, oui, évidemment.
J'ai oublié. Est-ce que vous pensez que le fait que la seule existence de l'Europe aujourd'hui qui est dans le nihilisme, ce soit son côté belligérant avec la guerre en Ukraine, est-ce que vous pensez que ça aussi c'est pas une raison pour nous détester?
Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un S à Occident, c'est-à-dire que en effet, il y a aujourd'hui plusieurs pays qui peuvent ou continents qui peuvent prétendre à cette définition de l'Occident. Il y a l'Europe, par ailleurs les États-Unis et aussi le Japon, pour une part Israël, etc. Et c'est là le problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est essentiellement un fantasme, une métaphore, le mot Occident, que j'essaye d'expliquer. Et moi, j'en reviens quand même à nos valeurs. Et
oui, certes, nos valeurs, elles en ont pris un coup quand même.
Oui, mais
si vous pensez qu'on est en démocratie déjà, je suis désolé de vous dire que dans Casimir, il y a quelqu'un qui est caché dedans.
Alors,
vous pensez qu'on est en démocratie?
Alors, on va laisser répondre Frédéric Martel.
Je pense qu'on est en démocratie.
Moi, je pense pas.
Et je pense surtout que on a commis beaucoup d'erreurs. Et vous avez raison de rappeler le colonialisme. On peut évidemment Hiroshima et Nagasaki, etc. Mais le colonialisme.
En ce moment, je veux dire, la loi du plus fort. L'Occident, oui. C'est la loi du plus fort en Iran.
Oui, enfin, aujourd'hui.
C'est la manipulation de l'information.
Aujourd'hui, le colonialisme.
On parle des médias, de la liberté des médias.
Attends, on va laisser.
L'Iran, on nous le présente comme le pays des mollahs, ce qui n'est pas faux, mais c'est aussi le pays des ingénieurs. Et ça, on nous en parle moins souvent dans les médias.
Mais le problème central, à mon avis, c'est que ces critiques qui nous sont faites, en tout cas nous Français, d'être colonialistes, par exemple, ça remonte à il y a 60 ans. Aujourd'hui, qui sont les colonialistes de notre époque? C'est d'abord la Russie en Ukraine, c'est les Chinois à Hong Kong et avec leur velléité sur Taïwan.
Et pas les États-Unis.
Ce sont quand même clairement...
Pas les États-Unis, pas Israël.
Ce sont clairement... Laissez-moi finir, je prends les uns après les autres. Les islamistes, et notamment l'Iran. N'oublions pas qu'ils ont détruit la Syrie. Ils continuent à détruire l'Irak. C'est eux, notamment... avec Israël, mais aussi eux qui détruisent le Liban.
Ben oui.
Et donc je pense que ça mérite d'être dit. Par ailleurs, après, il faut aussi voir ce dont on parle. Les États-Unis sont aussi, et historiquement ont été,
l'auto-détruire
avec une certaine... Vous savez, les États-Unis, c'est la première puissance au monde, c'est en termes d'armes nucléaires bien plus que tous les autres.
En termes militaires, non. Aujourd'hui, les Russes ont démontré qu'ils ont un armement que les Américains n'ont pas. Ils sont été dépassés.
Si vous voulez, si les Russes étaient dépassés...
Je ne suis pas pro-russe.
Ils ne seraient pas bloqués 20
kilomètres. Les Américains n'ont pas gagné la guerre en Ukraine. Malheureusement, ils n'ont pas gagné.
Les Russes n'ont pas gagné. Mais non, le point principal pour moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces gros ennemis, entre guillemets, je dis gros et c'est pas un très bon mot, veulent nous détruire. Et surtout, au fond, quelles sont leurs techniques, notamment les médias, notamment l'influence, notamment les réseaux sociaux. Et c'est tout ça que j'essaye de décoder.
Nous aussi. Je pense que l'Occident, alors je dis ça, mais je pense aussi que l'Occident essaie d'influencer, entre guillemets, ses valeurs à travers le monde, de la même façon.
Oui, mais je pense,
j'espère en tout cas.
Mais je pense qu'on a raison.
Que celle du régime des Mollahs, non?
Je pense qu'on le fait.
Je vais pas défendre le régime des Mollahs, mais non,
j'ai
même pas.
Attention.
Mais par contre, je fais défendre qu'on te dise, je t'impose ma démocratie à coup de bombe dans la gueule. Ça, je vais le défendre.
Justement, vous êtes un universaliste convaincu, j'ai eu l'impression.
Absolument.
Vous revendiquez la supériorité de certaines valeurs comme la démocratie, les droits de l'homme, l'homme, les droits fondamentaux par rapport à d'autres valeurs proposées par ces pays-là. Moi aussi, je suis de ce camp-là, mais il faut reconnaître que ce camp-là devient tout petit. En France, on n'entend pas beaucoup d'universalistes, et on entend beaucoup cette, notamment à gauche, on entend beaucoup ce postmodernisme comme le porte-mourade, mais ce truc de dire finalement une culture est pas supérieure à une autre. Finalement, cet universalisme, il écrase aussi les minorités, et parfois ça, pour le coup, c'est pas faux. Est-ce que vous pensez que l'universalisme a de beaux jours devant lui, et surtout, est-ce que vous pensez que si on redevient pas universaliste, on va se perdre?
Absolument, et là je suis encore une fois d'accord avec vous. D'abord, moi je ne crois pas à ce qu'on appelle la désoccidentalisation du monde. Je pense que l'Occident, avec tous ses défauts, reste et continue à porter les valeurs, parfois d'ailleurs à se trahir, et il faut le dénoncer, et vous avez raison sur ça, quand il ne respecte pas ses propres valeurs. C'était ce qu'on faisait en Algérie avant 60, donc ça mérite d'être dénoncé. Mais aujourd'hui, qui sont, encore une fois, les colonialistes? C'est l'Algérie qui est colonialiste et non pas la France en Algérie.
Est-ce qu'on se défend bien? Parce qu'on est attaqué de
les moyens, surtout.
On est attaqué de toutes parts. On remet en cause ce qu'on essaie de défendre, effectivement, ici, en tout cas en France ou en Europe. Est-ce qu'on se défend bien, ou est-ce qu'on n'est pas toujours aussi un peu à battre notre coupe en disant ils ont peut-être raison, finalement, c'est nous les méchants, un peu ce que fait Mourad. Oui, vous comprenez,
on a été colonisateurs. Sincèrement, je suis bien en Occident.
Moi, je suis pas colonisateur.
Je suis en Occident par hasard et je ne changerai ça pour rien au monde.
On n'est pas des colonisateurs. Moi, je ne suis pas colonisateur et je ne suis pas responsable d'une bombe nucléaire qui a été lancée en 1945.
Quand vous étiez même pas né, oui.
On parle de l'Occident. On parle de l'Occident, on parle pas de toi.
Et surtout, la France peut assumer son histoire et son passé. C'est ce qu'elle fait, par exemple, avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est une très belle fondation, sans se flageller toute la journée et détruire son modèle.
Comment on peut se défendre un peu plus fermement?
Pardon d'être auto-centré, mais c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Oui. J'ai passé 8 ans et près de 2000 interviews pour aller voir ces gens, pour justement construire un discours de réponse à partir de la réalité, non pas juste d'être dans son salon et de dire le monde va mal. Non, je suis allé sur le terrain pour les voir, dialoguer avec eux de manière d'ailleurs honnête, et ensuite fournir des arguments. Et c'est quoi? Moi, je crois, pardon de le dire, ce livre, c'est une défense de l'Occident, c'est une défense de nos valeurs, c'est une défense contre aussi, vous le dites très bien tous les deux, contre, au fond, alors l'ennemi, le mot est peut-être trop fort, mais les ennemis de l'intérieur. Ceux qui, chez nous, effectivement, passent son temps à se battre à la coupe, etc. Pourquoi pas? Mais pas dans une période de guerre comme on vit aujourd'hui.
C'est pour ça que je voulais insister sur ce que disait Alexandre Douguine, là, qui disait « Moi, j'ai jamais été fasciné par l'Occident ». Il vous le dit, et il énumère les raisons, et notamment l'Occident, dit-il, c'est un lieu maudit, c'est le royaume de l'antéchrist. En fait, tous ceux que vous avez rencontrés sont dans le renversement des valeurs. Ça veut dire quoi, en fait, comme qu'ils nous voient comme l'antéchrist?
Mais ça, c'est des purs. D'abord, on est un pur fasciste pro-Poutine, et lui, il veut remonter, si vous voulez. Il y en a beaucoup qui veulent remonter avant la guerre ou dans les années 60. Lui, il veut remonter au Moyen-Âge, avant le grand schisme. Donc, vous voyez un peu l'état du délire. Mais le point principal sur ça, c'est que vous avez des gens qui sont d'abord et avant tout des anti-modernes. Ils plaquent sur l'Occident la modernité. C'est vrai des frères musulmans qui veulent garder au fond la religion. La religion est très importante dans tous ceux qui nous haïssent, parce qu'ils disent, vous avez abandonné la religion, vous avez abandonné la famille, vous avez abandonné vos valeurs, et on aimerait retrouver ça. Et c'est ça qui unit à la fois cette extrême gauche et cette extrême droite.
En fait, intolérant vis-à-vis des femmes, vous ne laissez pas les femmes se voiler, vous ne laissez pas les femmes se couvrir intégralement.
C'est
quand même dingue.
Il faut quand même répondre à ça, non? Ce qui est amusant, c'est que ce discours, il est porté aussi bien par J.D. Vance, qui, quand il vient en Europe nous faire la leçon, que par les frères musulmans.
Absolument. Et c'est ça le livre.
Les extrêmes se
rejoignent.
Voilà. Même en venant là-dessus, moi j'ai lu votre livre, et vous dites à un moment donné, oui, les anciens pays communistes qui sont tombés, la plupart sont maintenant dirigés par, on peut dire, des fascistes, que ce soit Poutine, Orban et tout ça. Et là, vous dites, c'est quand même surprenant. Non, c'est pas surprenant, en fait. En fait, le communisme a été dévoyé. Le communisme n'est pas d'impliquer, de donner le pouvoir à un seul homme et puis de mettre tous les autres en dessous. Tu vois, c'était dévoyé. Moi, là où j'étais surpris, c'était un petit peu votre étonnement face à Gramsci. Gramsci, c'est quand même l'historien, c'est quand même celui qui a créé la propagande communiste et qui aujourd'hui, vous dites, c'est appliqué par des fascistes comme ceux que vous rencontrez en Italie. Mais on le voit aujourd'hui dans tous les pays du monde où les gens qui ont pensé il y a des années que vous pouviez changer le monde par le haut. Non, ça c'est pas possible. Donc maintenant, ceux qui veulent aujourd'hui régenter le monde se disent, je vais influencer les masses, et ensuite après, ça va monter. c'est ce qui se passe dans tous les médias. Aujourd'hui, c'est les médias. Aujourd'hui, qui c'est qui a tête d'année? C'est quelqu'un qui a fait partie des médias. Donc, en fait, on se retrouve avec ça. Et Gramsci, c'était exactement ça. C'était le dire de dire, hop, on va prendre les médias, on va prendre l'influence de tout le monde. Ouais. Et on les met, la culture, on met de la culture sur le peuple, on lui donne les informations qu'on veut lui donner. Et puis, à un moment donné, on mettra au pouvoir ce que le peuple voudra mettre au pouvoir. Parce qu'on lui fera croire qu'il n'y a que ça comme solution.
Ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire, c'est comment l'idéologie, essaye de devenir hégémonique. C'est ça, Gramsci. Et ce qui, moi, m'a intéressé, c'est que tous ces gens-là qui sont loin, etc., aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux télévisions mondialisées, etc., ils sont aussi, si vous voulez, pour prendre une image, ce sont un peu des animateurs des grandes gueules avec le code nucléaire. Et c'est là où ça devient très dangereux. Ce sont des gens qui interviennent chez nous par plein de voies, arrivent à nous infiltrer eux aussi et d'une certaine manière à nous menacer en utilisant l'argument de la guerre culturelle pour gagner l'hégémonie culturelle.
Quand même, on est quand même rassurés.
Et c'est à ça que je réponds.
On vient de voir Orban qui a été soutenu par l'ingérence américaine et aussi de par
exemple, Orban, il n'est plus là. Hein.
Il n'est plus là.
Vite, tu le verras plus.
Oui, mais on a quand même une certaine. Enfin, moi, ça me rassure de voir qu'à un moment donné, même malgré l'ingérence américaine et puis l'ingérence du RN, il fait quand même sortir.
Oui, enfin, il n'a pas été sorti par la gauche, il a été sorti par un ex de sa galaxie, qui est un conservateur.
Ce qui est intéressant avec Orban, c'est que vous avez vraiment dans les deux candidats la ligne de rupture très claire, la frontière entre la droite et l'extrême droite. Celui qui a été élu, qui d'ailleurs porte un nom incroyable, Magyar, c'est-à-dire elle est hongroise, donc il est sans doute très conservateur, sans doute même d'une droite qui serait chez nous considérée comme très à droite, mais c'est la démocratie. Et c'est quelqu'un qui représente la droite face à l'extrême droite. Et la différence, elle est très forte.
Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'Occident, enfin hors États-Unis, parce que pour moi les États-Unis, c'est d'abord l'Occident, c'est d'abord les États-Unis, que l'Occident aujourd'hui, son silence l'a réduit. Moi, je me suis demandé à une époque comment est-ce qu'on a pu, à une certaine partie, à un certain moment de l'histoire, comment est-ce qu'on n'a rien fait face à la Shoah? Et puis là, je l'ai compris ces dernières années. Pourquoi l'Occident ne fait rien? Pourquoi l'Occident ne bouge pas? C'est son rôle, puisque l'Occident a toujours voulu être un peu.
Parce qu'il y a même l'Occident qui a libéré la France, l'Allemagne. Même,
ouais.
Qui
a libéré la France en même temps qu'il nous libérait, il nous vendait Coca-Cola.
Et
le chewing-gum. Mais aujourd'hui, est-ce que ce silence de l'Occident par rapport à ce qui peut se passer sur la planète, c'est pas quelque part une faiblesse?
Non, mais
Ce qui devrait être un exemple.
Oui, vous avez raison sur un truc, c'est aussi la complexité de, en l'occurrence, l'Occident.
Face aux Américains, on est sous tutelle américaine.
L'Occident, ce n'est pas que les Américains. Justement, moi, je défends les valeurs européennes et françaises contre cette Amérique de Trump. Vous savez, on dit Trump taco. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. Taco, ça veut dire Trump's always chicken out. En gros, pour le traduire, c'est une poule mouillée. C'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait des moulins à vent, et vous aperçoit après que l'Amérique, elle n'est pas tout à fait comme il pense qu'elle est.
Merci Frédéric Martel. Occident, enquête sur nos ennemis, c'est aux éditions Plomb. On vous conseille vivement ce livre pour comprendre ce monde. Il est complexe, il est compliqué,
c'est une belle enquête.
En pleine évolution. Mais voir qui est à l'œuvre et quelles sont les confrontations du moment. C'est vrai qu'avant c'était binaire, c'était Est-Ouest, c'était peut-être plus facile, mais bon, ça c'est le passé. Merci Frédéric Martel d'être passé par les GG. Coralie dans l'Hérault, bonjour Coralie.
Oui, bonjour.
Vendeuse en boulangerie, c'est vous qui avez gagné les 120 euros d'essence, qui avez gagné plein d'essence.
Écoutez, génial, merci beaucoup, merci à tous.
Je vous en prie, parce que j'imagine que la bagnole, pour vous, du côté de Castelnau-le-Lez, c'est le quotidien, quoi.
Pas forcément, moi je suis plus en vélo, c'est mon conjoint qui a la voiture, mais moi je suis beaucoup en vélo.
C'est lui qui les a gagnés.
Vous faites plaisir à Florent et vous pourrez faire plaisir à votre conjoint. Merci d'avoir été avec nous, d'être fidèle à RMC et au GG. Coralie, n'oubliez pas, vous pouvez continuer de gagner des pleins d'essence en envoyant plein par SMS au 732-16. Dans un instant, le président de la République, il va s'adresser aux jeunes aujourd'hui. Il va leur demander de se déconnecter. Il veut les remettre à la lecture et il voudrait instaurer, le président de la République, une journée de la déconnexion. D'accord ou pas, bonne idée ou pas. 32-16, il est midi moins 25. Restez avec les grandes gueules sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble en direct sur RMC, RMC Story, pour discuter quoi? Pour discuter déconnexion et lecture.
Des branches.
c'est ce que voudrait le président de la République. Alors, on dit plus débranche, mais déconnecte-toi. Il veut une journée de la déconnexion, le président.
Oui,
Macron.
C'est son combat de fin de quinquennat. Emmanuel Macron, qui a été alerté comme d'autres par cette nouvelle étude du Centre National du Livre, qui montre qu'il y a une baisse très importante du temps de la lecture chez les 7-19 ans. Nos jeunes ne lisent plus ou quasiment plus. Et donc, face à l'explosion du temps d'écran et l'impact donc chez les jeunes, l'impact aussi des algorithmes sur nos enfants, le chef de l'État déjà veut interdire, vous le savez, les réseaux avant 15 ans. Bon, ça va pas être simple, on sait pas trop comment il va faire. Et puis il veut aussi, alors ça sera peut-être plus simple, lancer la journée hors ligne. Il va d'ailleurs l'annoncer aujourd'hui lors d'une rencontre avec 350 élèves franciliens. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une journée de la déconnexion? Et est-ce que vous pensez qu'elle serait respectée si on la lançait?
Alors c'est une très bonne idée, mais comment on la fait respecter?
Les parents. C'est un pays libre.
Ben oui.
Tu dis, c'est la journée de la déconnexion.
C'est vrai que si c'est Poutine qui te dit on déconnecte, c'est plus crédible déjà, tu appliques.
Oui. Bah, ils prennent le portable.
Comme Corée du Nord.
Non, il faut encourager la lecture.
Chez les 7-9 ans, après pour les autres, tu te dis.
Moi, je vois pas quel parent face à un ado est capable de faire ça.
Va dire à ton ado, c'est la journée Macron de déconnexion.
Bonne chance. Aujourd'hui, donne ton portable. Je te le garde.
Alors, est-ce que ça peut au moins faire réfléchir ce jour-là? On en parle.
Non, mais c'est ridicule parce qu'en fait, si les gamins ne lisent pas, c'est parce que les parents ne lisent pas. Toi, pourquoi tu lisais quand t'étais gamin? Parce que moi, je voyais mes parents lire, en fait. Moi, j'ai lu des bouquins parce que chez moi, déjà, tu te collais pas à la télé pendant 24 heures. Et surtout, je voyais mes mères lire et puis mon père lire. Donc, je me suis abandonné. Puis moi, j'ai commencé à m'affiler des bouquins, j'ai lu. Aujourd'hui, les gamins lisent pas. Moi, j'ai mon meilleur ami. Ces gamins, quand ils étaient petits, ils avaient un bouquin à lire, ils étaient en feu, hein. Donc, à un moment donné, ils essayaient de trouver une fiche pour de réduction, puis c'était réglé, hein. C'est comme ça qu'ils faisaient leur truc. Alors... Et puis, donc, c'est pour ça, en fait, faut arrêter. Et puis, alors, écoutez-moi, hein.
Donc, quand j'entends
Macron et déconnexion, je me dis que le plus déconnecté de tous, c'est quand même lui. À un moment, il faut être sérieux, hein.
Moi, j'ai des amis qui mettent leur portable.
Lui,
dans
c'est
un livre.
Quelqu'un a la déconnexion.
Ouais, c'est liseuse. Attends, vas-y, balance tes copains.
Comme on dit beaucoup que les enfants, faut les ménager, faut pas leur montrer des écrans, faut pas leur montrer des mauvaises habitudes. J'ai des amis qui font comme ça, pour ceux qui sont à la télé, ils prennent un livre, l'excellent Occident dont on vient de parler, et ils mettent TikTok à l'intérieur, le téléphone, et ils sont comme ça sur le canapé. Et
ah oui, scrollent. Pour faire croire.
Les petits enfants, mais une fois que les enfants grandissent, ça marche plus.
Mais tu dis, mais dis donc, t'as pas tourné de page depuis 10 minutes, là.
Non, mais voilà.
Quand ils ont 3-4 ans, ils comprennent pas encore. Et puis,
donc, en fait, vous êtes en train de dire que le combat est perdu.
Bah, évidemment.
Mourad, est-ce que c'est bien au moins de pousser à la réflexion?
Moi, ce que je peux vous dire dans les chiffres de l'édition, je veux dire, la littérature générale, c'est ce qu'on appelle la littérature générale, c'est moins de 2%, avec des best-sellers comme celui de Sarkozy, de Bardella, de Villiers, qui ne sont pas de la littérature, mais qui sont inclus là-dedans. Donc, je n'imagine pas les chiffres si on retire ces best-sellers.
Et la BD?
Et la BD, c'est moins 9%, avec une grande partie sur le manga, qui est en chute libre, ça, et Femmes de ménage qui cartonnent. Ouais. Et. Ah oui. Alors, ça va pas être rassurant. Le seul secteur dans l'édition qui est en hausse, ce sont les livres de coloriage.
Oui, c'est ça.
Ouais, on est à plus de 4 ou plus 5% pour les livres de coloriage.
Comment ça se fait?
Oui, parce que les adultes,
c'est pas des explications, c'est des livres
coloris. Bah oui, tu sais bien, les albums de coloriage, c'est pour adultes maintenant.
Ah bon?
Oui, Alain, je sais. C'est alors, le monde dans lequel nous vivons.
Voilà, c'est même
les
mêmes adultes qui vont voir Dorothée aussi.
Non, moi j'en ai un.
C'est les mêmes.
Moi j'en ai un et ça m'aide à me concentrer.
On est sauvés, tiens.
Moi j'en ai un et ça m'aide à me concentrer.
Ça t'aide à concentrer ou ça te détend?
Je le fais en travaillant. Par exemple, je suis dans un call avec en visio, on parlait de télétravail ce matin, et en même temps, je colorie à une main et ça m'aide à me concentrer.
Alors, moi, je vais faire une petite confidence. J'aime bien colorier avec mon fils de 5 ans.
Voilà, c'est parce que j'ai un TDAH. Mais si je vous mets en même temps le mot coloriage et TDAH,
non, mais c'est vrai.
Mais alors, après, juste pour terminer, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut développer la lecture, on a réduit les chèques lire, qui était une bonne idée pour les gamins d'avoir des chèques. Il faut inciter, pour les inciter, il faut faire des cadeaux, quoi. Il faut aider la librairie qui est en grande difficulté dans ce pays parce que les libraires, ce sont quand même des gens qui sont précurseurs, qui peuvent vous conseiller. Pour moi, c'est très important.
Il faut faire
moins en moins des libraires.
Et puis, comment ?
Il y a de moins en moins des libraires.
Il y a de moins en moins, et c'est un métier précaire aujourd'hui, libraire, je veux dire, parce que Amazon.
C'est une passion, comme on dit.
C'est aujourd'hui
que
la vente sur Internet a tué la librairie. D'autant qu'on est sur un prix imposé, la loi Langue fait qu'il y a un prix imposé.
À l'idée de.
Mais personne ne va se déconnecter.
On pourrait faire une journée.
C'est Macron qui faut déconnecter.
Est-ce que c'est gadget, encore une fois?
Mais comment tu veux une journée en ligne?
C'est impossible, on va pas aller chez chaque bout français pour vérifier s'il s'est déconnecté.
Ouais. Et puis surtout, si c'est Macron qui dit, personne ne le fera. Hein.
Aujourd'hui, c'est peut-être ça le problème, c'est qui porte le message.
Et surtout, qui a le pouvoir politique? Les politiques qui sont censés voter des lois, émettre des décrets, des arrêtés, des circulaires, là c'est quoi? C'est une parole divine? De quoi on parle? On parle d'un président de la République qui conseille aux enfants? Enfin, c'est quoi le véhicule législatif de cette idée?
Un rôle de parent aussi. Moi, je veux dire que les enfants lisent, c'est le problème des parents, comme tu le dis très bien.
Et après, Bruno, il s'appelle. Bruno, pardon. T'as eu un bug, là.
Oui, j'ai eu un bug. Et après, c'est aussi le, je sais pas, moi, j'ai grandi, j'ai lu beaucoup de livres, grâce à des profs aussi, qui m'imposaient de lire Maupassant. J'avais pas envie de lire Bellamy de Maupassant, ça m'a passionné. Ensuite, je suis allé voir d'autres bouquins, je voulais lire du Victor Hugo.
Les Contes de la Beca, ça, c'est un super bouquin, je rigole.
Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un prof de français qui m'a expliqué qu'il y avait un roman populaire français de très grande qualité, donc je me suis mis à lire du Arsène Lupin et choses comme ça. Et puis ensuite.
Je pense que c'était le dernier Bardella.
Non, pas le dernier Bardella. Voilà, je crois qu'il y a un vrai rôle à faire chez les enfants, de leur expliquer que le monde de l'imaginaire qu'il y a dans sa tête et qu'un livre permet de créer, il est aussi puissant que le monde de TikTok.
Mais regarde, va chez n'importe qui, peu importe la classe sociale, quoi que ce soit. Avant, tu rentrais chez des gens, t'avais une pièce où c'était.
Et la bibliothèque, c'était la bibliothèque
c'est
sociale.
C'est le cas chez moi.
Aujourd'hui, tu vas
cas.
Chez des gens. Moi, je connais plein de gens chez qui je vois jamais un bouquin. Et moi, quand j'étais gamin.
Il y a une bibliothèque, mais il y a une bougie dedans.
Ouais, moi, quand j'étais gamin, j'avais à partir de 12-13 ans, j'habitais avec ma mère, mon beau-père, et il m'avait foutu dans un endroit pour faire mes devoirs, ce que je ne faisais pas. Et en fait, à côté de moi, il y avait bibliothèque. Je ne faisais pas mes devoirs, je lisais tous les bouquins à la bibliothèque. J'ai tout lu.
Et t'avais des trucs aussi qui étaient. À une époque, t'avais. Bon, moi, je suis vieux, t'avais la bibliothèque verte qui était précurseur, il y avait des trucs sympas à lire.
Oui, tout ça. Et on a commencé par ça.
C'est pas ça, oui.
Non, mais il y a quand même une offre considérable. Alors là, c'est pas un problème d'offre, même pour les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de livres.
C'est un problème de prix aussi, je veux dire. Le livre, Olivier, aujourd'hui, le livre coûte cher. Le livre coûte cher parce que le papier a augmenté, il a un prix fixe. Et aujourd'hui, un livre, ça coûte cher à fabriquer. Et donc, forcément, ça répercute sur le prix de vente. Je veux dire, un livre, c'est 20 balles. Tu peux pas en acheter.
Regarde, aujourd'hui, tu vas chez Louis Gerbier, tu vas pas te retrouver face à une bibliothèque, tu vas te retrouver face à Vélo Magazine ou Pinard Magazine. Gerbier, lui, le bouquin, l'a jamais lu, tu vois.
Donc, il n'y a pas de mal de Pinard Magazine.
Oui, je sais, c'est toi qui es l'éditeur.
Mais... Et on a Sandra qui va intervenir. Elle est du côté du Nord. Elle est à Roubaix. Bonjour, Sandra.
Bonjour, les GG.
Bon, est-ce que vous pensez que ça peut être bon d'instaurer une journée de la déconnexion, une journée hors ligne? Dites-moi.
Alors, l'idée en soi, on va pas critiquer pour une fois que c'est une bonne idée. Par contre, moi, en tant que maman, j'ai deux ados, 16 et 14. Donc, on est en plein dans le sujet, effectivement. Mais nous, ce qu'on a instauré, c'est qu'on s'est obligé, hein, c'est du temps qu'on prend, de dire, allez, au soir, on arrête le téléphone, il est posé, et c'est des jeux de société, mais des jeux tout bêtes, du Uno. On a joué au puant la semaine dernière, mais c'est lunaire, peut-être. Mais c'est une heure, et aujourd'hui, c'est ce que je disais à votre collègue au standard, moi, c'est les petits qui viennent nous dire, on fait un jeu de société, s'il vous plaît. Et c'est même eux qui sont demandeurs.
Donc, quel âge ont-ils?
16 et 14, on en plein
mais 16
temps.
Et 14, est-ce que 16 et 14, ils arrivent à rester un quart d'heure devant un livre?
Oui, quand même.
Ah
quand même.
Oui, alors, je vais revenir sur une petite phrase qui m'a... les magazines, moi j'ai une prof en primaire qui était géniale, elle disait, laissez lire, faut qu'ils lisent, mais même un magazine, c'est très bien,
bien
sûr.
Grand,
bien sûr. Il est à fond dans tout ce qui est automoto, il lit que des magazines, un manga quand
c'est
il
déjà
en
bien, c'est mieux que rien.
Il est fan de manga. Des fois, je suis rentrée dans la voiture, le livre, il est à moitié attaqué. Mais parce que, tout petit, on prenait le temps. On lisait ensemble, dans le lit, pendant une heure. On prenait ce temps d'être ensemble et de pas de téléphone, même en tant que parent. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de parents à table. Moi, je suis commerciale, le resto, le midi, je le vois.
Ouais, ils sont sur les portables.
On est tous sur les portables.
Ouais. Mais ça veut dire, Sandra, qu'il y a tout le temps chez vous donc des magazines ou des livres qui traînent ça et là, quoi.
C'est
ça.
J'ai une anecdote toute bête. J'ai 48 ans. Mon fils, ils ont un temps de lecture au collège. Aujourd'hui, d'accord. On appelle ça. Il a pris un livre, La mécanique du cœur, parce que ce livre est magnifique. Le petit de 14 ans, il a lu La mécanique du cœur. Il a été dans la bibliothèque et il l'a pris.
C'est pour ça qu'il faut remettre en place un maximum de checklists. Je vais faire une métaphore maladroite, c'est ni la première ni la dernière. La lecture, c'est comme un dealer. C'est-à-dire le dealer, il offre la première dose parce qu'il y a une addiction. Et par rapport à des jeunes qui sont un peu rébutés par la lecture, je suis certain que s'ils commencent à lire un livre, ils vont trouver ça super, ils vont lire un deuxième et un troisième. Mais il faut enclencher
c'est
le
ça.
Truc. Il faut enclencher le truc. C'est ça.
Mais c'est aux parents aussi de donner un petit peu.
Voilà, parce que j'allais dire, la déconnexion, qui l'a fait respecter, la déconnexion, Sandra, selon
je
vous?
Pense que pour moi, ça reste à la maison, c'est en tant que parent, c'est d'inciter et de motiver le jeu de société. Je vous dis, c'est tout bête, hein. La boîte de Uno, elle est dans la petite table, en dessous dans le tiroir de la petite table, on sort le Uno. Mais il n'y a rien de transcendant. Mais on a instauré ce moment-là, et puis c'est un moment de famille. C'est un moment de rigolade.
Après,
c'est
aussi. Sandra, aussi du temps de consommation
Sandra,
qui manque.
Je voudrais qu'on écoute Eric qui est avec nous, qui est professeur de golf. Il a 4 enfants, Eric. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec la journée déconnexion?
Mais notre président qui c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin d'un président. On a besoin de parents qui soient un peu ouverts d'esprit. Donc je veux dire, être à l'ère d'internet et les interdire les enfants, on peut pas. Mais on peut faire un ratio entre les faire lire et non. Nous, les 4 enfants, même celle qui a 21 ans, elle continue toujours à lire. La dernière qui a 10 ans, la première chose qu'elle demande, c'est dès qu'on sort faire des courses, je voudrais acheter un livre.
Nickel,
certes, les livres sont chers, mais bon, je préfère acheter des livres que des bêtises à côté. Et ça n'empêche pas qu'ils ont tous des téléphones. Et la petite, elle a une autorisation d'une heure à une heure et demie, grand maximum, par jour de téléphone.
Donc c'est aux parents de se responsabiliser, ouais, de responsabiliser les enfants.
Un des problèmes du livre aussi, c'est qu'il a mal franchi l'étape du numérique. On lit pas beaucoup sur le numérique et il a mal géré ce truc parce que le moment magique du livre, c'est quand on tourne la page. C'est le moment qui nous appartient, on a l'interprétation de ce qui se passe. Et sur le numérique, on l'a pas, ça.
Il y a beaucoup de gens quand même qui lisent maintenant sur tablette.
Ah, et on en voit pas beaucoup. Beaucoup plus aux États-Unis par exemple, qu'en France.
Ouais.
En France, on est encore attaché au papier.
Vous qui êtes éditeur, vous connaissez. Moi, j'ai un très bon ami qui est chez Fleurus, qui fait tous les livres pour les enfants. Mmh. Il a essayé de faire pendant des années l'imagerie, d'ailleurs. Il a essayé pendant des années de faire le numérique avec les livres, mais les personnes aiment.
Ça passe pas. On n'a pas franchi ce cap. Par exemple, pour les mangas au Japon, les mangas se lisent quasiment plus que sur des portables.
Ouais. Merci Eric et Sandra d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos expériences personnelles. Merci à tous les deux.
Bonne journée.
Merci, au revoir. Alors, est-ce que une journée hors ligne, est-ce que ça peut être efficace ou pas?
Une journée hors gouvernement.
Oui ou non, on va voir. Oui ou non, oui ou non. Non, 92%. Merci à tous. On se retrouve demain. N'oubliez pas la journée plein d'essence. En envoyant plein par SMS au 732-16, vous gagnez 120 euros d'essence. Bonjour Charles Magnien.
Bonjour Alain, salut les GG. Bonjour à tous. Dans un instant, d'abord une très belle tablée. Baptiste Desmontiers, Juliette Briens, Benjamin Hamar au menu d'Estelle Midi. On va parler pouvoir d'achat évidemment, les carburants, on en parlait, on continue à vous offrir des pleins d'essence toutes les demi-heures sur RMC. Et puis on va parler alimentation, loisirs, vacances, est-ce que vous allez renoncer, est-ce que vous êtes déjà obligé de vous priver? On vous attend au 32-16. On va aussi avoir un grand débat, j'ai envie de dire un débat comme chaque année dans Estelle Midi. Faut-il interdire les douches de plage? On vient de les rouvrir à Biarritz. À l'heure où on cherche à sauver la planète.
Ouf.
Est-ce qu'il faut...
Serge Blanco, il a rouvert les douches. Mais non, mais c'est tellement agréable, la douche de plage. Bah, je défends la douche de plage.
Alors, le confort.
Non, il adore les douches de plage en collectif.
Mais la planète, elle ne défend pas les douches de plage.
Sincèrement, tu ne sauveras pas la planète en supprimant.
Bah oui, puis t'auras du dans ton slip surtout.
Attends, vas-y.
Pour info, l'eau à usage de consommation personnelle, donc comme les douches de plage, c'est moins de 25% de l'usage de l'eau globale. Donc ça n'a aucun impact.
C'est un symbole de l'éducation.
Non, non, non. C'est comme ça, c'est ça l'écologie punitive.
En parlant de la plage, faut-il en finir avec le summer body? Est-ce que vous vous mettez la pression là, que le maillot de bain approche, ou est-ce qu'au contraire vous avez décidé vous assumez? Je sens Bruno sous pression.
Moi je suis en plein summer body, là. J'ai commencé le travail, là c'est dur. Physiquement, je suis pas bien.
Pas du tout.
Pas du tout. Olivier, tiens.
Moi c'est le summer body toute l'année.
Restez Olivier.
Winter body, summer body.
C'est summer toute l'année, plus que body. Et puis on aura un tu préfères de haut. Alors ça, bien. Chips nature ou aromatisé?
Aromatisé.
Aucune.
Nature, bien sûr.
Aromatisé.
Merci Olivier.
32-16 pour réagir avec Charles. Bonne journée et bonne émission.